C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus. Alors, avant d'arriver au monachisme chrétien, vous nous avez fait faire tout un tour d'horizon sur le monachisme de toutes les autres religions antérieures, et puis voire même de l'histoire de l'humanité avec le chamanisme. Ensuite, vous nous avez fait des liens avec les philosophies grecques, comment on va chercher la vérité à l'intérieur de soi. Et alors, quand est-ce qu'on commence l'histoire réelle avec peut-être Marie égyptienne? En fait, vous êtes en train de nous dire que le premier moine était une femme. Et même on a longtemps
cru. Ça fait partie.
On a même longtemps cru qu'il s'agissait peut-être de Marie Madeleine.
Et pourquoi pas? Après tout, hein? Bon, alors je vous ai dit aussi, m'avait posé la question si j'avais des auteurs chéris pour l'histoire du monachisme. Je vous ai cité Jacques Lacarrière, les hommes ivres de Dieu. Je vous ai cité le livre d'Olivier Clément et du père Bobinskoy, justement, la Philokalie. Je devrais aussi vous citer le dictionnaire du christianisme ancien de Joseph Kelly, traduit par Denis Berger aux éditions Brépol, de 1994 au Seuil, hein, et d'autres plus variés, comme par exemple les apophthegmes des pères du désert, ou encore les paroles du désert d'Égypte par le père Lucien Regnault, qui est un bénédictin aux éditions de Solemne 2005, et je reviens à cette œuvre monumentale, qu'est la Philokalie, d'Olivier Clément et du père orthodoxe russe, le père Bobrinskoy. Ils prennent des textes qui vont du 4e au 14e siècle, ce qui est extrêmement intéressant, et vous le trouverez ça aux éditions d'Esclée de Brouwer et J.C. Lattès, 1995. Bon, alors, ceci dit, étant passé par nos sources bibliographiques, je n'ai cité là que quelques-unes, hein. Bon, il y en a d'autres. Dictionnaire de théologie, etc. Bon. Je pourrais dire que il y a eu aussi un facteur très important qui a joué. Ça a été la tendance de l'époque à l'esprit apocalyptique. L'esprit apocalyptique a créé, avec surtout l'idée et la persuasion de fin du monde, a créé l'idée que pour, disons, atteindre la perfection spirituelle, il fallait à tout prix se retirer du monde, vivre loin du bruit, loin de la dilapidation de l'esprit, pour retrouver l'essentiel et affronter la fin du monde.
Et c'est pas vrai?
Bien sûr, bien sûr. Bon, alors, cette tendance, les chrétiens l'ont trouvé dans les évangiles de Saint Jean, hein. Et il y a eu, à partir de là, une autre forme qui s'est faite, ce qu'on a appelé la tendance apotactique, c'est-à-dire qui visait à ce que les ermites vivent ensemble, mais sans aucun rapport sexuel ou affectif, parce qu'on avait encore les communautés hommes-femmes, hein. Alors, en effet, ben, on va retrouver ça plus tard dans d'autres mouvances, comme par exemple le catharisme, hein. Bon. En effet, le terme d'apotactique, en grec, signifie renonçant. Ce qui veut dire que ceux qui s'y engagent doivent le faire dans un esprit d'ascèse spirituelle qui se concrétise dans la vie pratique de tous les jours. Alors, dès le 3e siècle, après Jésus-Christ, bien entendu, c'est saint Hippolyte, évêque de Rome, qui a rédigé un ouvrage appelé « Commentaire sur Daniel », c'est-à-dire Daniel le prophète. Hein. Bon, le livre de Daniel aussi, bien entendu. Et surtout le livre de Daniel, dont on peut penser que la rédaction s'est achevée entre 171-164 avant Jésus-Christ. Ce livre a eu une énorme portée sur la pensée monachique. Il s'agit, dans cet ouvrage, de démontrer que les persécutés l'emporteront sur les persécuteurs. Ça, c'est un très vieux souvenir de l'exil babylonien, puisque le livre de Daniel a été très marqué par les rédacteurs post-exiliques babyloniens. Donc, toute cette pensée apocalyptique, apotactique, post-babylonienne, a marqué ceux qui partaient à la recherche de la lumière, de la vérité, du spirituel. Et le célibat a été à ce moment-là perçu comme un moyen permettant de vivre dans un esprit prédisposant à une vision apocalyptique. Et ça a été cette mouvance-là. Alors, voilà donc quelles ont été, si vous voulez, à l'origine, les bases du célibat monastique. Ça a été ça, hein. Alors.
Mais vous en parlez comme si le mariage était déjà une institution à l'époque.
Ah mais oui. Bon, il y avait le mariage qui était dans la
famille,
norme.
En fait.
Il y avait le mariage était la norme.
L'idée c'est de pas fonder une famille.
Une famille spirituelle qui n'est pas forcément une famille matérielle humaine, au sens humain, ordinaire ou longtemps. Quand je dis ordinaire, ça n'a rien de négatif, hein, bien au contraire. Alors, à partir de là, hein, nous avons la vision du célibat chez les ermites, chez les moines, chez les anachorètes, hein, et nous voyons quelle a été le fondement, un des fondements de cette pensée monachique. Les premiers monastères réellement sont du 4e et du 5e siècle après Jésus-Christ. Dans l'esprit de Constantinople, alors les chrétiens à Constantinople, ne l'oublions pas, élisaient leurs évêques parmi les moines. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sûrs, d'abord, d'avoir là des hommes d'un bon niveau intellectuel, d'avoir là des hommes d'un bon niveau spirituel, capables d'être des chefs de communauté.
Un igoumène.
Tout à fait. Tout à fait. Nous allons y venir à ces igoumènes. Hein. Ben, prenons le cas, Saint-Augustin d'Hippone a été élu. Saint-Martin, évêque de Tours, a été élu. Et n'oublions pas que Martin était marié. Martin était marié, il a demandé à son épouse, il a demandé, j'ai bien employé un mot précis, de bien vouloir entrer dans une communauté féminine puisqu'il avait été élu, lui, évêque. Vous voyez ? Donc, nous avons bien là la démonstration que pour l'épiscopat, on cherchait de préférence parmi les moines, mais pas forcément parmi les célibataires. N'allons pas motiver le célibat avec des choses pareilles. Vous vous rendez compte ? Bien. Alors, ensuite, eh bien, concernant les premiers moines chrétiens, on ignore beaucoup de choses, à commencer par leur nom. On connaît quelques noms. Bon, eh bien, je reprendrai là, justement, la philokalie, bien, puisque dans cette philokalie, nous avons bien sûr Antoine le Grand, hein, grand fondateur, qui, puisqu'il a vécu vers 251 et 356, bon, mais nous en avons beaucoup d'autres que nous allons petit à petit citer. Alors, Antoine le Grand est un personnage fascinant. Il ne s'est pas retiré comme ça dans sa grotte pour avoir des tentations, les fameuses tentations de saint Antoine, qui ont été bien représentées dans de nombreux tableaux de l'art chrétien. Et il a eu un long cheminement. Il apparaît vers 251. Il est donc le premier d'une longue tradition monachique. Mais, à l'âge de 18 ans, dégoûté des biens matériels, dégoûté d'une certaine richesse, il se retire dans le désert égyptien et il donne préalablement tous ses biens aux pauvres. Il y avait donc dans son esprit le lien entre la pauvreté et la sainteté, la recherche du vrai. Notre cher saint Antoine le Grand a donc fondé vers 310 son monastère. Mais cela ne l'a pas empêché de garder des contacts avec le monde extérieur. D'ailleurs, la véritable tradition érémitique et monachique précise que tout ermite se doit de recevoir toute personne qui vient dans sa laure pour lui demander une aide spirituelle vers la vérité. Personne n'a le droit de chasser un chercheur ou une chercheuse. Et même l'ermite se doit, en principe, de descendre au monastère de sa communauté pour les grandes fêtes religieuses et d'y avoir là contact avec son père spirituel et aussi son père conseiller, qui n'est pas toujours le confesseur ou le père spirituel. Alors, nous reprenons avec saint Antoine. Saint Antoine a soutenu un autre grand personnage, et ça va vous montrer à quel point il était quand même en lien avec toute l'Église. Il a soutenu Athanase d'Alexandrie, qui a vécu entre 296 ou à peu près, et 373. Alors, Athanase d'Alexandrie, au concile de Nicée, avait eu à lutter contre les hérésies d'Arius sur la nature du Christ. Et Athanase était lui-même un ascète et un disciple de Lucien d'Antioche. Or, ce qu'il avait agacé dans les théories d'Arius, c'est qu'Arius lui aussi avait été un disciple de Lucien d'Antioche. Or, il niait la nature divine du Christ. Pensez bien qu'Athanase d'Alexandrie ne pouvait pas être d'accord. Et il a été soutenu dans cette attaque d'Arius, il a été soutenu par saint Antoine. Ceci montre bien que saint Antoine était parfaitement en lien, quoique ermite dans sa grotte, avec les grands penseurs chrétiens de son temps. Et ceci met un frein à l'espèce d'ignorance sur saint Antoine, qui a voulu qu'on dise « Oh, ben, saint Antoine n'était pas un intellectuel, il n'a pas écrit, donc ce n'était pas un grand penseur. »
Ça rompt avec l'image de l'ermite dans sa caverne qui se contenterait, je sais pas moi, de psalmodier, etc.
De psalmodier et d'être un superbe ignorant.
Il lisait, il rencontrait des gens.
Et en fait, exactement. Hein, ça, c'était important déjà de le préciser.
Et ça veut dire que dans la communauté au sens large, on savait ce qu'il pensait d'un sujet
exactement,
ou de l'autre.
Parce que Athanase.
Donc on n'est pas coupé du monde.
Non. Athanase d'Alexandrie a écrit une vie de saint Antoine. Et il insiste beaucoup sur les relations de saint Antoine avec d'autres penseurs. Et aussi, alors, il insiste énormément sur les fameuses tentations de saint Antoine et de ses démons. Bon, mais il faut bien entendre le mot « démon » à ce moment-là, au sens grec du mot, c'est-à-dire ses obsessions. Hein. Il ne s'agissait pas d'esprit cornu qui venait le visiter. Ça, c'est une thématique des artistes par la suite. Bon. Alors, après le décès d'Antoine, il y a eu beaucoup de disciples d'Antoine qui ont poursuivi son œuvre et qui ont petit à petit structuré le monachisme et, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cénobitisme. Hein? Alors, il y a eu un autre grand fondateur du monachisme. Ça a été saint Pacôme. Saint Pacôme, il a vécu à peu près entre vers 290 et 346. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de vers. Hein? C'est vrai, il faut bien savoir que la plupart de ces hommes et de ces femmes ont laissé très peu de traces sur leur vécu réel. Ils n'ont pratiquement rien écrit sur eux. Ce sont les autres qui ont écrit sur eux. Mais ils n'avaient pas toujours une numérologie, disons, de leur date de naissance, des plus exactes, loin de là. Hein. C'est pour ça que ne vous étonnez pas si je dis souvent « tel a vécu » de vers à 346, parce que ça, la date de décès, on la connaissait plus précisément.
Hein. Oui, on n'avait pas un état civil tout à fait à jour. Oui. C'est d'ailleurs l'Église en Europe qui a élaboré les dates de baptême, naissance.
Exactement.
Jusque-là, ça nous était égal.
Merci de reconnaître l'apport de l'Église.
Bah, c'est l'apport de l'Église. C'était celle qui savait écrire.
Vous faites rire. Ah, mais au moins, je vous fais rire, c'est merveilleux.
Bon, il a été enrôlé dans l'armée romaine, Pacôme.
Alors, Pacôme, bravo, a été enrôlé dans l'armée romaine.
Alors qu'il était égyptien.
Voilà exactement. Vous savez, rien d'étonnant, les Romains étaient présents en Égypte. La belle Cléopâtre nous a donné un brillant exemple avec l'empereur romain, n'est-ce pas? Bon, mais là, je n'irai pas jusqu'à dire jusqu'où était la présence. Bon, alors, saint Pacôme, je suis mort de rire, qui a vécu entre vers 290, pardon, j'en bafouille, et vers 346, était d'origine païenne. Entendons-nous bien sur le mot de païen. Il y a une ambiguïté terrible qui est due au latin, c'est que le même mot paganus veut dire païen, c'est-à-dire non chrétien, et paysan. Tout ça pourquoi ? Parce que le monde rural est resté très longtemps attaché aux vieilles religions, et seul le monde urbain a été plus rapidement converti au christianisme. C'est un phénomène d'osmose sociale, bon, qui s'est produit. Alors, donc, être très très prudent sur le terme de païen, car qu'est-ce qu'on entend ? Est-on sûr que tous ceux que l'on qualifiait de païens...
Ça, c'est très très bon, parler des moines et dire est-on sûr.
Oui, non, mais... Oh bravo. Bon, est-on sûr que ces gens que l'on qualifiait de païens n'avaient pas déjà des recherches dans l'orientation chrétienne, étant donné qu'ils fréquentaient déjà des judéo-chrétiens et des chrétiens? Ça reste à bien préciser.
Mais vous savez quoi, il va falloir que vous gardiez toute l'histoire de Saint Pacôme pour la prochaine émission.
Bien, mon cher.
Merci, Bernard Vacherot.
L'histoire des religions avec Bernard Vacherot, curé de Caylus, les origines du christianisme, tous les mardis à 12h35. CFM.